Merci d'être présent. Merci d'avoir répondu présent à l'appel et à l'invitation de 400 Partners. Effectivement, une soirée placée sous le signe d'une thématique clé pour vous tous et vous toutes, rebondir ensemble les nouveaux enjeux du management de transition. Alors, c'est une vraie dynamique hein, qui a été initiée par 400 Partners. Avec, vous en suivez beaucoup, vous participez à beaucoup d'entre eux, des webinaires, 2 à 3 par jour pendant ces 2 mois, en plus des ateliers habituels. Et c'est vrai que la marque 400 Partners est maintenant reconnue et référente depuis près de 2 ans. Alors, le principe de cette soirée, de cet événement, c'est la convivialité, le partage, la proximité. Vous allez pouvoir évidemment agir et réagir avec nos 4 invités. Je vous parle de nos 4 invités parce qu'effectivement, le principe, c'est aussi de partager des retours d'expérience, d'avoir des regards croisés sur l'appréciation de cette situation qui est, vous le savez, évidemment inédite au niveau personnel, bien sûr, et puis au niveau de l'activité des entreprises. 2 temps, on aura d'abord une table ronde avec nos 4 experts que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et au terme de cette table ronde, vous pourrez poser vos questions, session de questions-réponses, que ce soit dans le chat, et je me ferai votre humble porte-parole, ou alors vous lèverez la main virtuellement, et puis on vous donnera la parole en nous efforçant d'avoir des réponses courtes, aussi courtes que les questions que vous pourrez poser, pour aller, comme on dit, straight to the point. Il y aura aussi un sondage exclusif en live. On dévoilera les résultats de ce sondage auquel vous participerez en fin de webinaire tout à l'heure. Puis on pourra réagir par rapport à ce sondage. Je vous précise aussi qu'on enregistre l'audio, pas la vidéo, mais on enregistre tout l'audio de ce webinaire pour avoir des bons souvenirs et pouvoir piocher et piquer dans les propos qui auront été tenus ce soir. Alors, place à notre table ronde, 4 invités, je vous le disais. Patrick Abadi de Delville Management. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci Frédéric.
Alors, Delville Management, on connaît évidemment, mais je vais rappeler quelques chiffres clés. Créé en 2010, 26 collaborateurs, environ une centaine de missions en cours. Dans le top 3, hein, premium et puis pure player. Et avec un ADN très très fort, hein, quand on pense à Club Delville en particulier, c'est l'entraide et le collectif. Merci en tout cas d'être avec nous.
Excellent résumé, Frédéric.
Merci beaucoup. Alban Azopardi est avec nous pour Grant Alexander Executive Interim. Bonjour Alban. Bienvenue.
Bonjour, Eric, bonjour à tout le monde.
2016, jeune cabinet adossé à un grand cabinet qu'on ne présente plus. C'est 10 collaborateurs agiles, forte croissance. Votre spécificité, c'est, je parlais tout à l'heure de proximité, c'est ce que vous promouvez, proximité client, attention et un réel partenariat autour du manager de transition. Et vous me l'avez dit en préparant cette émission, ce n'est pas un métier de chasseur. Voilà, c'est bien le distinguo que vous souhaitez apporter. En tout cas, merci d'être…
Chasseurs, ce sont mes collègues.
Exactement. Troisième intervenant de cette table ronde, c'est Gilles Marc pour Actis Partners. Bonjour, bonsoir Gilles.
Bonsoir à tous.
Merci de vous joindre à nous. 2004, pure player, Actis Partners, une base de 3000 managers, 200 missions, une dizaine de collaborateurs, puis une présence en France, en Italie, également en Afrique, avec un baromètre qui est un référent hein, dans la profession et un label de qualité que vous promouvez. Merci en tout cas, Gilles, de vous joindre à nous pour ce webinaire. Et puis notre hôte, hein, je vais terminer avec Bruno Calbry pour 400 Partners. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Frédéric.
Merci d'être là et puis merci d'avoir initié ce webinaire. Une proposition de valeur qui est claire et nette. Nous sommes un réseau, pas une plateforme. Hein, c'est ce que vous dites. Diminuer le temps d'intermission, ne pas se retrouver seul, mais au contraire bien accompagné. Et la valeur ajoutée du côté hybride, avec d'un côté l'entreprise ou l'association et puis de l'autre côté un réseau de managers. Et je terminerai pour présenter 400 Partners. Il y a un triptyque que vous encouragez, visibilité, formation et business. Voilà, vous les connaissez tous les 4, vous les connaissiez avant, mais ils sont avec nous ce soir. Alors, on va procéder en 3 temps. D'abord, première partie, analyse, état des lieux. Voilà. On braque les projecteurs sur la situation et comment vous l'appréciez. Deuxième partie, c'est plutôt l'opérationnel aujourd'hui, hein, le avant le 17 mars et puis le après le 17 mars. Et puis on essaiera dans une troisième partie de se projeter pour voir ensemble comment va se dessiner notre écosystème dans les semaines et les mois à venir. D'abord, je voudrais qu'on commence en une minute, tous les quatre successivement, et on va commencer avec Patrick. Le regard par rapport à cette situation, mais c'est Patrick qui parle, c'est l'homme. Vous diriez quoi, Patrick ?
Patrick, il voudrait déjà remercier Bruno pour l'invitation et 400 partenaires pour le travail qu'ils font et qui est un super partenaire de la profession, et Frédéric également pour la préparation de ce webinaire. Patrick, il est en banlieue ouest parisienne, là, en famille, avec ses deux filles. Voilà, on a plutôt pris la salle à manger, on a mis les rallonges sur la table de la salle à manger, on a transformé ça avec les écrans, les bouquins, et voilà, ma femme qui bosse aussi, et tout le monde en télétravail, et gros travail, parce que je trouve qu'on travaille beaucoup, hein, et c'est une forte pression, là, voilà.
Voilà, donc un travail en co-construction, en famille, hein, pour vous, Patrick. Alban, vous êtes où, vous ?
Alors, bon, moi, je suis au milieu de la forêt, donc c'était un temps assez particulier, c'était presque plus une retraite qu'un confinement. Mmh. Finalement, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, donc pas à travailler, parce que ma femme étant médecin, elle était sur le pont. Donc, moi, j'ai des jeunes enfants, donc voilà, il fallait que je m'en occupe. Et finalement, on a profité de la forêt. On n'a pas trop vu le confinement, à part que d'habitude, il y a beaucoup de gens qui viennent manger ou prendre l'apéritif. Et là, il y avait beaucoup moins de monde, voire personne.
Voilà. J'imagine que vous attendez le 11 mai pour, tout en respectant les distanciations.
La maison est toujours ouverte, nous avons la table. Mais voilà, après, évidemment, on a un peu travaillé quand même. Hein.
Parfait, merci Alban. Où est-ce qu'on est avec vous, Gilles ?
Ouais, je suis à côté de la forêt de Montmorency, que je vois tous les matins de ma fenêtre. Alors nous, on était en télétravail depuis plusieurs mois déjà, parce qu'on avait fait le choix assez radical de ne plus avoir de bureau et on préfère orienter notre budget marketing vers autre chose que du bureau. Donc on n'a pas eu à faire de gros changements informatiques, etc. Bon, ce qui nous manque, c'est le contact physique.
Alors comment ça se passe ?
Ça se passe par Zoom, de toute façon avec un associé à Abidjan et un autre à Milan, un autre à Lyon, un dans l'Ouest. Il n'y a qu'avec les Parisiens qu'il y avait vraiment du partage quasiment quotidien. Donc là, ça ne change pas grand-chose.
Et du côté de la forêt
Voilà. Je rejoins un peu ce que dit Patrick. Moi, j'ai déjà autant bossé, mais enfin, j'en ai marre de voir à la télévision des gens qui disent « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant le confinement ?» Moi, j'ai bossé, et on a bossé comme des dingues. En plus, j'ai été détecté positif pour des raisons familiales. J'ai ramassé le truc, mais il ne s'est rien passé, sinon que j'ai eu 24 heures de fièvre. Et beaucoup plus embêtant, j'ai perdu le goût et l'odorat, ce qui fait que mes frites ont un goût de sel. Et le vin a un goût de flotte. Donc, c'est quand même assez embêtant. Quoi,
voilà. Mais vos propos vont être pimentés, je n'en doute pas.
Ça revient. Donc, si Alban, tu m'invites à un apéro, je pourrais y aller.
D'accord. Parfait. On va terminer avec vous, Bruno. Où est-ce que vous êtes ?
Eh bien, je suis au forêt de Rambouillet aussi, au sud-ouest de Paris, à la maison avec mon épouse. Je découvre que je suis voisin d'Alban, voilà, on ne le savait pas, donc on a un point commun. Effectivement, pour reprendre ce que vient de dire Gilles, beaucoup de travail, des hauts, des bas, je ne le cache pas, et des hauts notamment avec Fanny, Laurent, Élodie là, qui sont là et qui ont préparé cet événement. Moi, je philosophe toujours un petit peu. Alors, j'ai le sentiment d'avoir atteint une forme de débarcadère dans ma vie. Voilà, j'ai découvert que j'avais une vie intérieure, par exemple. Donc, c'est assez étonnant, mais bon, voilà, on est tous effectivement dans une situation qu'on a vécue plus ou moins bien, mais on sort très fort de cette situation.
Puis on le voit, qu'on soit dans la forêt ou pas, on a tous un peu à un moment ou à un autre cultivé notre jardin secret. Hein, voilà, la vie intérieure que vous évoquiez à l'instant, Bruno. Alors, première partie, analyse, le contexte, l'état des lieux. Je me tourne vers Patrick Abadi, concernant alors à la fois les clients et puis à la fois l'interne. Comment vous appréciez cette situation et comment vous l'avez gérée avant d'aller un petit peu plus loin après.
Alors nous, déjà, quand il y a eu les ordonnances Macron il y a 2 ans, on avait déjà mis en place le télétravail. Donc, une journée par semaine, toutes les équipes étaient en télétravail. Donc, quand il a fallu télétravailler, nous, on a anticipé de 2 jours avant les demandes gouvernementales. Hein, j'ai dit à mes gars et mes filles, vous prenez l'ordinateur sous le coude et on se reverra quand on se reverra. Donc, ça, il n'y a pas eu cette mise en place un peu douloureuse qu'on a connue dans certaines entreprises de mise en place de ce télétravail. Bon. Après quoi, je pense que on a eu évidemment, on a eu à gérer sur la deuxième partie du mois de mars l'impact sur nos missions. Hein. Donc, vous le disiez, on a une centaine de missions en cours pour 150 missions qu'on avait démarré, un petit 150 missions qu'on avait démarré en 2019. Et donc, sur cette centaine de missions, grosso modo, on a eu 20% qui ont été impactés. Donc, la moitié de ces 20% ont été des missions qui ont été mises en stand-by. Hein. Donc, on attend le post-confinement et puis normalement, ça devrait reprendre. Il y a un quart de ces missions, donc les 5%, qui ont été arrêtées prématurément. C'est-à-dire, on était sur des missions qui arrivaient à la fin de la fin de la mission prévue était fin mars, fin avril, et donc elles se sont arrêtées. Et puis enfin, le dernier quart de ces missions impactées ont été des missions qu'on a fait passer en part-time, c'est-à-dire d'une mission au 5/5e, on est passé sur des missions en 1 ou 2/5e. Et ça, les clients ont apprécié parce qu'ils ont dit, c'est bien, ça permet de rester à la maison, ça permet de conserver le contrat, et puis on réenclenchera le full-time en post-confinement. Bon, évidemment, personne n'avait imaginé que le confinement serait de cette longueur-là.
En interne, Patrick, il a fallu faire de la réassurance, de la pédagogie. Comment vous avez agi? Vous avez rencontré en face-à-face virtuelle les personnes?
Oui, ben mon équipe que je salue d'ailleurs, parce qu'il y a certains d'entre eux qui doivent être en train de m'écouter. Là. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie, en fait. Ouais. Notamment quand on a vu les chiffres d'une crise qui serait très, très, très importante, plus importante que la sortie, que la Seconde Guerre mondiale, plus,
ouais, très anxiogène, hein.
Plus importante que les subprimes, enfin rien à voir. Ouais. Christine Lagarde qui dit à la radio un matin, il y aura 10 ans de récession. Enfin bon. Et donc de prendre l'ampleur, d'en parler avec les uns et les autres, de dire, et je l'expliquerai après, pourquoi je pense qu'il est important qu'on conserve nos équipes et pourquoi je pense que le management de transition a plutôt de beaux jours devant lui en post-sortie de crise. On aura l'occasion d'y revenir.
Il y a eu beaucoup de réassurance, en fait, hein, Patrick. Alors, on vous a perdu quelques secondes. J'en profite pour me tourner. On vous retrouvera évidemment, Patrick.
Et donc, de dire à mes salariés, enfin à mon équipe, 26.
Ouais, on a un petit problème de connexion avec Patrick. Alban, vous de votre côté, Patrick faisait référence au télétravail. Vous aussi, hein, c'est devenu un peu la norme. Vous l'aviez lancé déjà avant cette crise, hein.
Nous, de l'origine de Grant Alexander Executive Interim 2016, pas de l'origine du cabinet Grant Alexander, parce qu'il y a 30 ans. Alors, il y a 30 ans, le télétravail, on n'en parlait pas. Ouais. Mais depuis déjà quelques années, on mise beaucoup sur l'autonomie et la responsabilité de chacun, y compris évidemment sur le télétravail. Donc, depuis le début, et ça s'accélère, les gens sont en télétravail quand ils ont envie. Hein, ils ont juste un salarié à déclarer en disant… tel jour, je suis en télétravail, c'est pour leur propre sécurité. Et ça se passe très bien. Donc, on a tous évidemment des ordinateurs portables et des accès sécurisés. Il y a eu un premier galop d'essai, c'était les grèves. Bon, voilà. Deuxième, et là, le confinement, là, il n'y a pas eu le choix, c'était 100% télétravail.
Côté responsabilisation par rapport à ce que disait Patrick tout à l'heure, il y a eu des messages de réassurance.
Oui, en fait, alors que ce soit auprès des collaborateurs ou auprès de nos managers de transition, notamment en mission, les autres, mais notamment ceux qui sont en mission avec nous, il faut être présent. C'est pas les appeler tous les matins. Par contre, quand ils ont besoin d'échanger, quand ils ont des questions, quand ils ont besoin d'être assurés ou réassurés, évidemment, faut être présent. Évidemment, faut expliquer les choix qui sont faits. Grant Alexander est au global, hein, pas que la transition, mais le cabinet au global, a été l'un des premiers à signer la charte du Syntec sur l'éthique dans cette situation. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que 100% des collaborateurs en période d'essai ont été confirmés. Il n'y a pas eu d'arrêt pendant la période d'essai parce qu'il y avait ce confinement ou cette crise qui va arriver. Hein, on a confirmé tout le monde.
Côté business,
sauf cas particulier, aucune de nos missions s'est arrêtée. Il y a eu deux cas, mais voilà, c'est très particulier. Donc, on est un peu mieux loti finalement que Patrick. Après, on n'a pas ces chiffres, on est un peu plus petit. On est un peu plus jeune aussi.
Et vous me disiez aussi que, évidemment, forcément, tout ce qui était pharma et agroalimentaire, ça continue.
Voilà, donc les missions en cours, sauf cas particulier, il y en a eu un ou deux, ne se sont pas arrêtées et ont été continuées normalement à 100%. On est sur la majorité de nos missions, vraiment les fonctions CODIR. Et donc, quand vous êtes DAF d'une société, vous travaillez pendant le confinement, en mission ou en CDI, c'est la même chose, hein, vous travaillez. Côté par contre nouvelle mission, évidemment ça a été un peu plus calme, mais je pense que ça c'est le cas pour tout le monde. Ouais. Je ne pense pas qu'un cabinet va nous dire oh là là, pendant cette période de confinement j'ai doublé mon
nombre de forêt.
Ce sera étrange. Et,
on va voir avec vous tout à l'heure justement comment vous prévoyez la suite. Je me tourne vers Gilles Marc. Gilles, pour rebondir sur ce que disaient Patrick et Alban, on parlait de travail, de télétravail tout à l'heure. Évidemment, vous étiez précurseur, c'est devenu la norme avec cette situation. Hein.
Je viens de payer mon abonnement, mon renouvellement de Zoom depuis plus d'un an. Ouais. On a les rituels télétravail maintenant avec les réunions hebdo quotidiennes, etc. Donc on est bien rodé là-dessus. Sur le confinement, on a une filiale à Milan, donc évidemment c'est plutôt nos amis milanais qui nous ont qui nous ont mis à la cote, si l'on peut dire, sur le confinement, parce qu'eux l'ont vécu avant nous et de façon…
Les best practice, entre guillemets, quoi. Hein.
Exactement. Ah. Donc, ils sont livides. On dirait qu'ils sortent de leur trou parce qu'ils n'ont pas vu de soleil pendant deux mois. En plus, il n'y a pas beaucoup de soleil à Milan, etc. Voilà. Donc, après, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur la façon dont on l'a vécu. C'est plutôt comment l'ont vécu nos clients. On a vraiment eu du client qui a… est passé en télétravail complet parce qu'on est sur du service et donc il y a eu 2-3 jours un peu compliqués avec les DSI qui étaient au front bien sûr, jusqu'aux clients qui ont eu moins 80, on a même un client qui a moins 100% parce qu'il exploite des centres qui sont concernés par la fermeture administrative, donc effectivement ça tangue et là il a fallu qu'on soit là, donc pas tellement entre nous mais plus vers nos clients, voilà. Côté business, nous, on est à 30% de missions touchées, dont une qui est carrément arrêtée. Les missions qui sont touchées, c'est principalement des missions projets stratégiques où les clients se disent « Ouais, bon, c'est pas… » c'est ce projet-là qui paye en premier, je dirais. Voilà, et ça rejoint un peu les chiffres de la FEDE. On a fait le tour à la FEDE l'autre jour, donc on est 25 entreprises de management de production. Et les chiffres sont autour de 20%, grosso modo, donc ça correspond à ça. Je voulais juste donner une information. Le marché de l'intérim, je dis pas l'intérim, le management de transition, je dis bien l'intérim, en une semaine a baissé de 90%. Ouais. 90%. Voilà. Comparé à nous quatre, ou même plus, on est à plus 15, moins 15, moins 20, moins 30, moins 90. Donc, s'il fallait dire qu'on ne fait pas de l'intérim, c'est encore un bon indicateur pour confirmer ça.
Et ça permet justement de mettre en perspective et de relativiser. Notre hôte, Bruno Calbry pour 400 Partners, vous de votre côté, le manager est au centre et puis il y a cette force du réseau, ce modèle hybride aussi. Ça a été utile là pendant cette période ?
Alors, effectivement, c'est très utile. On a mesuré effectivement que nos valeurs, l'entraide, la transparence, on les a revalidées aujourd'hui. Notre modèle hybride, je pense qu'effectivement, a aussi cette force et cette différence, c'est qu'on s'appuie sur… j'ai été coupé.
Non, on m'entend, Bruno. On m'entend voilà. Là. Très bien.
Donc effectivement, cette résilience due au fait qu'on a deux clients, on a un client qui est l'organisation et un deuxième client qui est le client interne, qui est le manager. Et j'étais bluffé par la mise en route de ce réseau, de notre réseau, sur la création et la préparation de ce rebond, que ce soit sur la création de guides. On a créé 3 guides là, qui vont paraître, dont un demain, sur le rebond d'ailleurs. Et puis, des groupes qui se sont constitués sur le retournement, l'attaque des fonds d'investissement, la fonction RH et la fonction DG. Donc ça, effectivement, c'est la force de ce réseau. Sur la partie business, un peu plus affectée que mes confrères, on est à moins 20 en mission arrêtée, moins 20%, et en mission suspendue, moins 20 aussi. Voilà. Vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Patrick, on commençait à en parler tout à l'heure. Hein, on avait ces trois quarts en termes de mission, qu'elles étaient en stand-by, arrêtées ou décalées. Comment ça se passe du côté de la typologie, j'allais dire, en fonction des fonctions, que ce soit DAF, DRH, DG, vous voyez nettement avant-après par rapport à ce que vous percevez dans l'opérationnel. C'est notre deuxième partie après la première partie analyse.
Alors, avant-après dans l'opérationnel, aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'après. Donc, les demandes, on peut les imaginer, ouais. Mais pour reprendre les propos de mes confrères, dire aujourd'hui que savoir quelle typologie de mission on démarrera plus dans le futur par rapport au passé, c'est difficile de le dire, voyez-vous. Okay. Hein, si demain j'aurais plus besoin d'un DAF ou d'un DG, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que en l'espace de 4 semaines ou 6 ouais. semaines, aujourd'hui, on est passé d'une typologie de manager qui montait sur des missions pour préparer la croissance phénoménale de nos clients qui sont des grosses PME, des ETI ou des branches de groupe. Et on était, je prends l'exemple d'un directeur général ou d'un DAF, on était plutôt le 13 mars en train de parler de refinancer une dette, de lever des fonds, oui. de racheter son concurrent, de développer un nouveau pays, d'investir dans une nouvelle ligne de production, d'investir dans une nouvelle usine, etc., etc., etc. Et qu'en l'espace de 6 semaines, on est passé à la question au directeur financier qui est la prioritaire aujourd'hui, c'est est-ce que je paye les salaires du mois de juillet, de août, ou voilà, quel est mon plan de trésorerie à venir. Donc, on sent bien que la typologie de fonction va juste pas du tout être le même contenu au sein des fonctions.
Oui, bien sûr. Moi, je discutais avec Emmanuel Barbara du cabinet Auguste et de Bouzy et qui nous disait, ben voilà, au niveau RH, avant, on était dans le développement des collaborateurs, dans le bien-être au travail, et aujourd'hui, on se dit, ben, il va y avoir des plans sociaux. Donc là aussi, c'est votre agilité et j'allais dire votre flexibilité qui va jouer, Patrick.
Nous, on vend de l'expertise et on vend de la flexibilité. Donc, c'est sûr que les clients qui n'ont pas accès à ce type de compétences n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers nous. Alors, en fait, il y a plusieurs raisons qui vont faire que les clients vont nous appeler. La première, quand même, c'est ce virus en question. Parce que ce virus, aujourd'hui, lorsque vous êtes intubé, vous ne reprenez pas le boulot de vous reprenez le travail. Il y a un écho là, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, je pense. Voilà, monsieur. Ouais, non, sinon ça donne des échos et c'est assez
désagréable.
Ouais. On se retrouve dans une situation où quelqu'un qui est intubé reprendra le boulot 6 mois après, parce que c'est très long de reprendre. Là, on a une situation où on a une mission actuelle, une recherche actuelle, c'est pour remplacer quelqu'un qui est disparu, qui est mort de cette maladie. Et on a des demandes comme ça qui arrivent, qui émanent de PME, d'ETI, de grands groupes, sur des fonctions cadres dirigeants. Ce virus, il touche toutes les classes de la population, donc il touche aussi les CSP++, c'est-à-dire toutes les fonctions qu'on rencontre.
Réaction, je vais vous couper deux petites secondes, Patrick. Je voudrais qu'Alban Azopardi, Alban réagisse. Le métier a-t-il foncièrement changé? Qu'est-ce que vous percevez, vous, de votre côté, au niveau opérationnel, Alban?
Pour moi, le métier des cabinets de management de transition, il n'a pas changé. Demain, notre métier, c'est toujours d'apporter à nos clients des compétences de façon temporaire, opérationnelles, de cadre dirigeant.
Donc, vous voyez aussi qu'en termes de typologie, comme Patrick, là, ça change.
Ce sera le même métier pour nous. Par contre, ce ne sera pas obligatoirement les mêmes compétences de manager ou le même savoir-être ou savoir-faire, soft skill. aujourd'hui, comme l'a dit Patrick, c'est difficile pour nous, cabinet, de dire demain, ce sera ça. Tout simplement parce que nos clients ne le savent pas encore. Ils n'ont pas encore redémarré. Donc, on imagine des choses, on discute avec eux, ils imaginent eux-mêmes des choses. Après, dans le dur, bah, ils verront bien un moment où, OK, on veut redémarrer, qu'est-ce qu'on fait ? D'ailleurs, est-ce qu'on change le paradigme de l'entreprise ? Est-ce qu'on change le footprint ? Est-ce qu'on rapatrie nos usines asiatiques en Europe ? Aujourd'hui, ce n'est pas décidé. Et ce ne sera pas nous qui déciderons, ce sera nos clients avec leur conseil en strat.
Mais alors, Patrick disait tout à l'heure, justement, c'est des questions aussi crues et aussi fondamentales de ben, comment je survis, comment je fais pour que ma boîte continue, quoi.
Ce sera, alors, évidemment, il y aura des missions qui seront les mêmes qu'hier, des management relais, voilà, des remplacements, etc. Et il y aura des missions très spécifiques à cette crise, due au virus, comme l'a dit Patrick, ou due aux conséquences du confinement et de la crise économique, qui seront très spécifiques. Clairement, aujourd'hui, c'est impossible de dire quelles fonctions seront le plus touchées. Est-ce que ce sera les financiers, les RH ? Je pense que l'ensemble. Aujourd'hui, d'ailleurs, de toute façon, le management de transition, quand j'ai commencé il y a 15 ans, c'était les DG et les DAF. Aujourd'hui, c'est tous les métiers d'entreprise. Donc, demain, il n'y a pas de raison que ce soit tous les métiers d'entreprise qui seront touchés. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y aura des impacts. Dans le court terme, évidemment, les managers, donc, les managers de transition doivent être adaptables au télétravail, au management à distance, au digital. Ça, c'est des soft skills. Si on ne les a pas aujourd'hui, si on ne sait pas faire un Zoom, si on ne sait pas gérer ses équipes sans les avoir autour de soi, autour de son bureau, ça va être compliqué.
Comment on peut accompagner et apporter une proposition de valeur cohérente si on ne sait pas nous-mêmes utiliser les outils que les entreprises utilisent? Voilà. Intéressant ça. Je voudrais que Gilles-Marc réagisse. Gilles, avec Actis Partners, vous aviez l'expérience aussi de 2008. Elle a été utile, hein?
Oui, je suis le papy de l'étape, eu égard à la couleur de ma barbe. J'ai vécu 2008, absolument. Et en 2008, je me souviens très bien des gens qui me disaient « Ah, mais vous êtes un manager de crise, ça doit être génial pour vous d'avoir des tonnes de missions. » Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'on a suivi exactement le même parcours que les entreprises de consulting, c'est-à-dire quelques entreprises fermaient le robinet. Je me souviens, chez ArcelorMittal, M. Mittal avait dit « No consultancy, no hiring, no travel. » Donc, on peut intervenir gratuitement. Et puis après cette période de sidération et de… Alors, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, les crises ne sont pas les mêmes, mais enfin, après cette période de sidération et quelques entreprises qui sont parties à la casse, parce que voilà, c'est comme ça, le business est revenu as usual avec ce qu'on dit malgré tout Patrick et Alban, c'est que d'abord, on ne sait pas du tout, on ne sait pas bien, ça se sait, mais que je rejoins Alban, il n'y a aucune raison que toutes les fonctions ne soient pas concernées par les problématiques de nos clients. Un tel a une usine à faire redémarrer, l'autre doit en fermer une, l'autre doit en ouvrir une, on relance un projet stratégique, il y a quand même des boîtes qui se rachètent, il y a des boîtes qui se spin-off, enfin, etc. Et donc, à chaque fois qu'il y a ces moments de cassure, il y a besoin de nous. Et donc, je suis incapable de vous dire si on était à 32% de DAF, on va passer à 28%, j'en sais rien du tout. Mais pour moi, il n'y a pas de raison qu'à part la marge en fine-tuning, on ne continue pas sur un trend. Et au contraire, je dirais que notre métier va trouver encore plus sa justification.
Ouais, ce que disait Patrick tout à l'heure en parlant de beaux jours devant lui. Il y a quelque chose dont on entend beaucoup parler dans les médias, c'est la confiance, la défiance. Votre regard par rapport à ça, Gilles ?
Alors ça, c'est quelque chose qui me frappe. J'écoutais encore l'autre jour une émission là-dessus. C'est vraiment le business, c'est la confiance. Et ce que je vois, c'est de la défiance. On a de la défiance avec le gouvernement, avec les centres de recherche, les Chinois, tel chercheur marseillais, on l'aime, on l'aime pas, etc. Bon, alors au-delà du business général, j'ai une petite crainte et un espoir par rapport à notre métier. Je commence à entendre de plus en plus la petite musique de l'entreprise de management de transition qui fait de l'intermédiation, qui est entre les deux, qui a presque un péage, je dirais, et on n'est pas loin d'entendre qui s'en met plein les poches sur le dos du manager ou le client qui dit oh là là, bah vous gênez pas, etc. Bon, ça reste encore faible, mais je sens que ça monte et je trouve que c'est une très belle opportunité pour nous tous de remettre en avant, et c'est le moment ou jamais, de remettre en avant notre valeur ajoutée, expliquer exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, On n'est pas là que pour fournir de la viande, on n'est même essentiellement pas là pour ça, parce que sinon il n'y a pas besoin de nous, effectivement, ça devient un métier qui n'a aucun intérêt. C'est vraiment l'occasion de réfléchir et de mettre en avant nos valeurs ajoutées, de les réaffirmer. Et chaque entreprise a sa valeur ajoutée. Enfin, en règle générale, c'est quand même un vrai savoir-faire pour trouver les bonnes pointures, ça veut dire comprendre véritablement quels sont les enjeux d'entreprise et comment on fait pour transformer des entreprises.
Voilà, donc, bel enjeu, donc réaffirmer avec, vous le disiez, Gilles, les fondamentaux et la valeur ajoutée de nos métiers, de nos femmes et de nos hommes. Bruno, réaction par rapport à ça, on parle de confiance, on parle de défiance, on parle de valeur ajoutée de nos métiers. Je le disais tout à l'heure en présentation, hein, vous promouvez l'entraide, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et ça aussi, ça participe de la dynamique de tout l'écosystème que vous animez, hein.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est le mot qu'il faut retenir, effectivement, confiance. Je ne vais pas effectivement développer ce point-là. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que le flux, le deal flow, c'est quand même bien tari. Hein, on a parlé d'une émission qui se sont arrêtées. Le téléphone n'a pas sonné pendant près de 8 à 10 jours. Il n'était jamais arrivé. Il ressonne depuis lundi. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Je pense que cette date du 11 mai nous amène effectivement une visibilité et une façon de se reprojeter dans un avenir très très proche. Je n'ai pas de tendance à vous donner. On a ce que l'on voit quand on écoute certains fonds ou certains cabinets de M&A, on voit effectivement qu'ils veulent par exemple consolider leur participation à tout prix. On voit effectivement qu'on a des projets de relocalisation qui vont impacter notamment les sujets de supply chain. Je pense que dans la répartition de nos missions, aujourd'hui, vous savez, le management de transition, c'est quatre piliers. C'est la transformation, les projets, le management relais et le management de crise. Aujourd'hui, c'est les 30-30-10. 30-30-30-10. Il va y avoir effectivement probablement un switch entre la crise qui va monter, effectivement, qui représente 10% et qui va prendre une part assez importante probablement à la rentrée. Quand j'ai la rentrée, c'est septembre, c'est un petit peu tôt. C'est ce que j'entends des mandataires judiciaires, par exemple. Et inversement, le management relais, qui prenait effectivement, qui était en plein essor depuis maintenant un an, qui était là aussi parce que l'emploi des cadres était très, très florissant. Donc, le management de transition était aussi une variable d'ajustement. Ce point-là, effectivement, compte tenu d'un emploi cadre qui va forcément se stabiliser, voire décroître, va effectivement diminuer. Donc un transfert de la crise du relais vers la crise, si vous devez le dire comme ça, avec toujours bien sûr des projets de transfo et voilà.
Alors je disais tout à l'heure, hein, solidarité, aidons nos entreprises. Il y a beaucoup d'initiatives que vous avez initiées. On peut en parler parce que je le disais, ça participe de toute cette dynamique et de la solidarité, hein, en fait. Hein.
Alors effectivement, on a, vous savez, on est toujours plein d'idées. On a cette agilité, peut-être que c'est aussi cette jeunesse. Hein, on est venu depuis 2 ans. On a pris l'initiative dès le 17 mars, je crois le lendemain du discours de notre président, sur effectivement comment aider nos entreprises, comment les accompagner, partant du principe que le gouvernement et les services sanitaires ne pouvaient pas tout. Et donc, on a lancé une initiative avec les échos qu'on a appelée Aidons nos entreprises, une initiative pro bono. Et tout le réseau s'est mobilisé effectivement pour dire je peux aider l'entreprise sur quelques jours de conseil, à distance principalement, hein, il ne faut pas se leurrer.
Donc, un accompagnement gracieux, hein, c'est ça, hein.
Totalement gracieux, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a encore 2 missions qui sont en cours avec des PME et des PMI, pour être très, très précis, notamment sur la gestion du cash, qui est un vrai sujet.
Et puis, il y a des groupes, des task force, hein, aussi, que vous avez mis en place, hein.
Oui, je le disais tout à l'heure, effectivement, on a un groupe retournement qui s'est vraiment mobilisé sur tous les acteurs de cette profession en France, les mandataires, les administrateurs, les greffes, les CCI, les avocats spécialisés, le M&A. Et donc, on a fait une action commando avec une task force de 6 personnes. Et on fait exactement la même chose avec les fonds d'investissement. Voilà, et notamment les fonds d'investissement qui sont spécialisés dans le retournement, mais pas que.
Alors, on a vu hein, la situation, le coup de projecteur sur l'état des lieux. On vient de voir les initiatives, l'opérationnel, les choses présentement, comment ça s'est passé, comment ça se passait. Troisième partie, avant de passer à vos questions et aux réponses, évidemment, on va essayer de se projeter. Patrick Abadi, Patrick, comment vous voyez les choses? On peut parler d'un nouveau paradigme si on veut se projeter sans évidemment regarder dans le marc de café. On n'est pas devin, mais on sent un peu les choses.
Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau du club d'Elleville, il y a 450 personnes, vous le disiez tout à l'heure, vous citiez le club, ouais. 450 personnes, et qui existe depuis ce club 2010 maintenant, une dizaine d'années, hein, comme le cabinet d'Elleville d'ailleurs. Et on a mis en
place… Bon anniversaire, au fait, hein, oui, 10 ans. Hein.
Ouais, 10 ans, ouais, merci, merci. Et on a mis en place une initiative, alors pas pro bono, mais c'est vrai que le club est avant tout un club d'entraide et qui nous aide également, quand on a des soucis sur des missions, à activer des personnes membres du club pour soutenir nos missions en cours. Et donc, on a fait un post LinkedIn, pas forcément pro bono, parce que… Sans suivre la mode un peu du moment, et même si c'est très bien de le faire, hein, évidemment, de proposer aux gens qui en avaient besoin un audit gratuit ou avoir du présentiel, quoi. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, donc, tout à l'heure, je disais, un, remplacer effectivement les malades sur la suite. Deux, il est évident qu'un cadre de dirigeant d'ETI, s'il a besoin d'embaucher quelqu'un, s'il a besoin d'embaucher un autre cadre dirigeant en CDI, je pense qu'il y en a deux, trois qui vont avoir la main qui tremble quand il va falloir commencer à signer le contrat de travail. Hein, oui. Je m'explique. On n'a pas de visibilité, l'avenir n'est clair pour personne, le chiffre d'affaires n'est pas sécurisé, les marges ne sont pas sécurisées, on a changé.
Je ne sais pas s'il va y avoir une deuxième séquence. Enfin, voilà, oui.
Alors, on lit ça, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais enfin, bon, on peut comprendre que… Alors, il y a tous ces… Mais pourtant, il y a quand même des équipes à encadrer, donc, on a quand même besoin de personnes. Donc, je pense que toutes ces personnes-là n'auront pas le choix, quelque part, de se tourner vers des managers, des managers, des entreprises de management de transition, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Après, je pense qu'il y a un autre aspect, et ça, pour en avoir parlé avec certains DRH, ils me disent, mais nous, on avait des chasses en cours, on avait des chasses qui étaient finalisées. On attendait que les candidats arrivent pour prendre en charge tel ou tel département. Et puis, les candidats, ils nous appellent les uns après les autres en disant, mais moi, je ne vais pas me mettre en période d'essai dans une entreprise qui plus est que je ne connais pas à un moment où la crise est aussi forte. Et c'est quelque chose qu'on a connu au lendemain.
Rester au chaud, entre guillemets, hein.
Exactement. Donc, ça fait un deuxième aspect. Là, le DRH, qui est une boîte dans l'aéronautique, nous dit, mais moi, j'ai quand même mes équipes à encadrer. Alors, comment je fais? Je n'ai pas d'autre recours que de faire appel à du management de transition.
C'est QFD, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Exactement. Et enfin, quand même, c'est que aujourd'hui, et ça, Gilles, mes confrères l'ont souligné, c'est que on est assez récemment, on est encore sur le plein emploi sur les cadres dirigeants. 3% de chômage, 3,5% de chômage, ça veut dire quoi pour notre profession? Ça veut dire que quand on a besoin d'un directeur financier pour driver un LBO de 200 millions, eh bien, il y a 5 ans, on avait besoin de passer 15 coups de fil et on en avait 3 de disponibles. Il y a 5 ans, c'était le ministère du redressement productif avec Arnaud Montebourg. Je ne vais pas revenir dessus. On était dans un monde qui n'était pas le même. 5 ans après, on se retrouve à devoir passer 100 coups de fil pour trouver une short list, trois directeurs financiers qui répondent aux critères de nos clients et disponibles dès lundi prochain pour prendre la mission. Donc, il était
évident. Il y a une carte à jouer là.
Voilà, il est évident qu'avec cette crise, on sent bien qu'on va avoir plus de personnes disponibles. On sent bien que les clients de l'autre côté vont avoir certainement plus de besoins. Donc, cela étant, je pense que le nombre de missions va se multiplier.
Voilà, donc saisir l'opportunité. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure la nécessité d'affirmer cette valeur ajoutée et cette différenciation. Merci Patrick. On se projette avec vous maintenant à Alban. Vous êtes dans la forêt, soucieux de l'environnement évidemment. Comment vous voyez le métier et comment vous percevez les perspectives à court, moyen et long terme?
Plutôt bonne. C'est une grande espérance. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas bonne. Alors, j'ai aussi, je suis un peu plus jeune que Gilles, mais j'ai aussi vécu 2008-2009, parce que j'ai commencé ce métier en 2007. Et effectivement, il y a eu un peu un freeze pendant 6 mois. où personne ne bougeait, et c'est un peu ce qui s'est passé, mais ça a été un peu plus court, ça a duré que 2 mois. Notre métier, il bouge quand il y a besoin de changement, de transformation. Pas que, parce qu'il y a du relais, il y a du conseil, etc. Mais enfin, le cœur, quand même, c'est le changement et la transformation. Et là, il va y en avoir. Il devrait y en avoir beaucoup. Donc oui, il y aura des besoins. À nous de nous adapter aux besoins qui se ressemblent à ceux d'hier et aux besoins qui seront ceux de demain. Et pour certains,
donc, agilité, flexibilité, hein, c'est ce dont
voilà. On parle. Ça, c'est notre métier. Et les managers, comme je l'ai dit, bah, il y a des soft skills. Management à distance, si on ne sait pas faire, ça va être plus compliqué. Ouais. Après, oui, il y a aussi des sujets, vous l'avez un peu évoqué, environnementaux. J'ai lu avec plaisir, parce que j'étais un peu inquiet, une tribune de Jacques Aschenbroth, CEO de Valeo, qui disait « redémarrons, mais en accélérant encore la transformation durable enfin, la transition durable ». Bon. Quand il y a Roux de Bézieux qui dit mettons en stand-by l'écologie, en gros, pour redémarrer économiquement, bah, peut-être. En face, on a quand même le patron d'un des plus grands équipementiers automobiles qui dit non, on va faire dans l'autre sens, on va même accélérer parce que l'économie de demain, elle sera celle-là et profitons-en. Donc, c'est juste personnel, ça m'intéresse beaucoup.
Oui, c'est le vœu que vous formez et probablement, si on vous écoute, ça fera, et on l'espère d'ailleurs,
bouger les lignes. Dans les questions, d'ailleurs, il y a une question de Thierry, du pays, de 400 partenaires sur le RSE, et je pense que ça va être comme plein d'autres, mais aussi un des créneaux, parce qu'il y aura de la transformation. Et quand on a des 50 patrons de grands groupes internationaux qui signent une tribune en disant « on va accélérer sur ce sujet », c'est pas anodin et il y aura des sujets.
Voilà, il y aura des sujets et il y aura du boulot, entre guillemets, pour nous tous. Gilles, par rapport à justement, là, si on se projette avec… les trois valeurs ajoutées, on peut peut-être les donner, d'Actis Partners et votre proposition de valeur qui va dans ce sens-là. Hein.
Je suis moins RH et plus transfo que la majorité des entreprises de management de relations. Je suis venu à ce métier parce que moi, ce que j'aime, c'est le monde de l'entreprise. Et donc, on essaie de développer chez Actis une valeur ajoutée forte dans la transformation. Quand on mène une mission, le manager est une partie très importante, évidemment, mais il n'est pas tout seul. Notre métier, c'est pas de faire du recrutement de manager transition. Notre métier, c'est vraiment de mener les transformations. Quand on va à l'extrême de cet exercice, j'ai même une mission où c'est le client qui nous a fourni le manager, ben, on a quand même fait notre mission parce que notre vrai savoir-faire, c'est la transfo. Et je pense que le fait que ce que disait Patrick, c'est qu'il va y avoir de plus en plus, enfin, le plein emploi pour les cadres, on va temporairement en prendre un petit coup. On va arriver dans des moments de tension entre les clients qui vont... travailler en direct avec des managers qui vont faire en direct leur mission, des managers qui vont avoir des missions via les entreprises de management de transition. Là, il va y avoir des petites tensions. Et je pense qu'effectivement, il faut, en réaffirmant la valeur ajoutée qui est « je sais comprendre les enjeux d'un client, je sais trouver des missions et je sais piloter la transformation, en tout cas, j'ai des idées, en tout cas, j'ai de l'expérience là-dessus », ça va plus loin que de trouver le manager qui va bien, parce que le manager qui va bien, il va finir par se trouver tout seul. Donc là, en tout cas, je parle pour Actis. Nous, on met vraiment en avant cette spécificité de pilotage de mission. C'est pour ça qu'on reste petit, parce qu'on n'a pas envie d'en mener trop, parce que sinon on le fait mal. Donc on se limite à une dizaine de missions de front et on les mène vraiment bien. C'est ça qui nous fait vibrer, quoi. Ouais, donc alors après, moi je suis comme Alban et Patrick, lire dans le marc de café, c'est compliqué. Par contre, ce que vous avez dit tous les deux, et Bruno aussi, c'est totalement vrai. De toute façon, on est dans le métier de la flexibilité non seulement géographique, mais intellectuelle. On travaille tous des managers qui sont d'abord des… Moi, j'aime pas le mot manager, j'aimerais bien qu'on parle du leadership de transition, c'est pas très beau, mais pourtant, ça correspond mieux à ce qu'on fait. On travaille vraiment avec leaders qui savent
donner le sens, donner une vision.
C'est ça, donner une vision à une mission. Chez des clients qui sont un peu perdus, voire complètement, c'est quand même intéressant d'avoir des gens solides et qui ont un vrai leadership. Et s'ils ne savent pas se servir de SAP version 3.2.45, c'est pas trop le sujet. Voilà.
Et je retiens aussi ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Hein. Et c'est intéressant quand on dit qu'on doit avoir une vision, quand on veut piloter. Pilotage, vous le disiez tout à l'heure, Gilles, il vaut mieux avoir une bonne vision. Bruno, on va terminer avec vous. cette table ronde avant de passer aux questions-réponses. Il y en a déjà beaucoup que Laurent m'a fait passer. Alors, quand on est, comme vous, first player, copié, critiqué, voilà, c'est un peu le poil à gratter de la profession. Comment vous voyez le business de demain, vous, Bruno ?
Je crois qu'on a... Il y a deux sujets. Il y a le métier, côté EMT, et puis il y a les managers de transition. Côté EMT, je pense qu'on a une belle opportunité de redorer un blason qui parfois a été un petit peu terni et donc autrement dit un potentiel de mission qui a priori s'avère assez fort dans les mois à venir. Ça c'est le premier point. Mais le deuxième point est plus important, ce sont les managers. Les managers, et là on est 350 je crois à écouter ce webinaire, on promeut, notamment chez 400, l'arrivée des primo-accédants. On voit ce que disait Patrick tout à l'heure, on passait 15 coups de fil, on avait 3 personnes il y a quelques années, maintenant ils font passer 100 pour avoir trouvé la personne idoine pour la mission. Donc autrement dit, aujourd'hui, l'aspect soft skill va être important, et ce que l'on promeut, c'est ce que je disais à l'instant, c'est comment on fait grandir des personnes qui n'ont jamais fait de mission, comment on les expose, on les met en visibilité, on les forme, pour qu'effectivement puissent arriver à produire cette première mission. On voit dans les chiffres de la fédération qui sont sortis il y a quelques semaines que désormais 40% des managers de transition sont des primo-accédants. Donc c'est un vrai sujet, c'est presque un appel que je lance ce soir, c'est un vrai métier, mais effectivement ça passe par un leadership et des qualités particulières, et on ne va pas reparler des soft skills.
Il faudra faire le métier différemment, d'après vous, Bruno ?
Je ne suis pas certain. Je pense qu'il va falloir monter en gamme, en qualité, en pilotage de mission, d'autant plus que les risques seront peut-être un peu plus grands sur les missions, et notamment des risques non pas sur la possibilité de vendre les missions, mais aussi de se faire payer.
Ouais.
Voilà, c'est un vrai sujet. On en parlait à la Fédération il y a quelques semaines. Voilà, il y a forcément une vigilance accru que l'on...
Parce que vous n'aurez pas de mal à vendre des missions, mais après, c'est se faire payer. Quoi.
Exactement.
Voilà, fin de cette table ronde très intéressante. C'est une sorte de mise en bouche, puisqu'on est un peu à l'heure de l'apéro virtuel pour la session de questions-réponses. Merci à vous quatre, déjà, d'avoir répondu à mes questions. Non, ben voilà, je vois que Gilles est déjà équipé. Et on va passer aux questions-réponses. Laurent m'en a fait beaucoup, beaucoup passer. Vous allez pouvoir lever la main. Je vais peut-être commencer par cette question. Question de David Segalas à tout le monde. Il nous dit, on entend beaucoup parler ces derniers temps d'une augmentation de managers de transition provenant de l'ensemble de la zone européenne, du fait justement du télétravail. Quel est votre point de vue sur le sujet ? Qui veut prendre la main ? Oui, Patrick.
Je peux. On est présent... En Angleterre, depuis 5 ans, via une filiale localement, où on adresse les fonds de private equity et on travaille partout dans le monde grâce à cela. On a un partenaire en Angleterre, on a un partenaire en Allemagne, on allait avoir un partenaire à Milan. Bon, là, on attendra un peu avant d'aller lui rendre visite. Voilà. Pour répondre à David, que je salue par ailleurs, je ne trouve pas qu'il y ait un flux de managers qui soient en dehors de France et qui souhaitent faire des missions en France. Enfin, pas plus. Moi, je n'ai pas identifié ça. Et on a 4 personnes à plein temps qui travaillent au sourcing, dont qui sont connecteurs de talents, donc dont le rôle est d'avoir la relation avec les managers de transition. Ce n'est pas ce type d'écho que j'ai eu, David.
Ouais. Bruno, Gilles, Alban, vous voulez réagir ?
Oui, je suis pareil. L'internationalisation, c'est vraiment au niveau des clients, ça oui. Des missions partout dans le monde, bien sûr. Mais les managers sont quand même assez locaux. Alors bon, un Belge peut intervenir en France et un Français peut intervenir en Suisse.
Ouais, il y a quand même des spécificités locales. Hein.
Voilà. Et qui plus est, c'est compliqué de faire une mission quand on est Français aux États-Unis ou en Angleterre, etc., dans des pays où il y a déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive, et on a tous des réseaux internationaux. Si on a une mission qui doit être faite au Royaume-Uni, on a un correspondant qui va nous trouver le manager qui va bien, etc. Donc, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais. Alors, après, il y a des missions où on est en France et on a besoin d'installer une usine en République tchèque. Et bon, bah, alors, on est basé en France, mais on est quand même la moitié du temps à Prague. Oui, ça arrive, mais je ne sens pas une tendance très lourde sur ce point-là. Mais la question est intéressante. Il faudrait peut-être gratter et en reparler dans quelques temps. On est peut-être à la remorque là, sur ce coup-là, je ne sais pas.
Pour moi, il n'y a pas d'évolution. Il y avait des missions à l'international avec des profils internationaux, que ce soit des gens de notre réseau à nous, plutôt français, qu'on envoie à l'international, ou via des partenaires ou des bureaux locaux. Hein. Quelques-uns, comme Patrick, ont des bureaux ailleurs qu'en France. Mais il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'augmentation de ce sujet-là. Il y en a, il y a des missions, il y a des sujets. On fait régulièrement des missions avec des partenaires internationaux, mais pas plus, pas moins qu'il y a un an ou qu'il y a deux ans. Ou, voilà.
Bruno ?
Pas d'évolution de notre côté, effectivement. Probablement du fait qu'on n'a pas une exposition internationale très très forte, mais je ne vois pas effectivement d'évolution. Je pense que Patrick Alban et Gilles ont plus de légitimité sur ces sujets-là.
Autre question. Alors, c'est Olivier Naudin.
J'avais juste une anecdote. On a mené une mission en Pologne cet hiver. On a tout fait en visioconférence. Tout, absolument tout.
Oui, alors justement, tiens, j'ai une question. On va rebondir sur votre remarque. C'est Christelle Lécu qui pose une question. Alors peut-être peut-elle la poser directement. Christelle, si vous m'entendez, on va ouvrir votre micro. On vous écoute.
Oui, tout à fait. Comme tout le monde s'est mis, bonjour à tout le monde. Cette période, elle a changé énormément de choses dans les pratiques et notamment sur le digital. Donc, je me demandais si effectivement, ça allait favoriser les missions sur la digitalisation et les plans stratégiques qui ont peut-être été un peu à la traîne et qui pourraient vivre une accélération du fait de ce confinement. Sachant que ça n'était pas forcément des missions stratégiques qui étaient le plus couramment demandées en transition. En tout cas, je n'en avais pas le sentiment auparavant.
Il y aura certainement une accélération dans les entreprises qui n'étaient pas au niveau. Parce que normalement, en 2020, faire du télétravail, ça doit fonctionner. Ce n'est pas un sujet exceptionnel. Et il est vrai qu'il y a certaines entreprises, certains de nos clients ou pas, qui aujourd'hui ont eu du mal à se mettre au télétravail. Ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas les outils. Tous les cadres, ils n'ont pas des portables, mais des fixes. Enfin, fixe, ça ne s'achète plus, quoi, c'est fini. Certaines entreprises vont avoir des missions. Après, il ne faut pas imaginer que ça va être la majorité, parce que la majorité des entreprises, quand même, aujourd'hui, arrivent à fonctionner en télétravail à peu près normalement. Donc le sujet, il n'est pas technique.
Peut-être un sujet de droit social ou de ressources humaines sur l'encadrement, justement, et la porosité vie pro, vie perso.
C'est des conséquences, c'est des sujets conséquences. Ouais.
Bruno, peut-être, Gilles, Patrick ?
Non, je pense que… Alors, il y a l'aspect digitalisation sur les managers en tant que tels et l'organisation de l'entreprise. Et puis, il y a l'aspect de l'entreprise en face de ses clients. Ouais. Là, c'est sûr que les projets de transformation digitale orientés vers les clients, ils vont s'accélérer. Hein.
Oui, voilà. C'est ceux-là auxquels je faisais référence, effectivement, avec tous les outils qui… Oui.
Je pense que là, effectivement, ça va s'accélérer. C'est-à-dire, ça a mis le doigt… Sur le fait quand même que tous les business qui étaient uniquement physiques, je pense, vont aller à un moment donné, lorsque c'est possible, vont aller vers une digitalisation de plus en plus rapide. C'est évident. Et d'ailleurs, ça a changé les habitudes et il y a des habitudes qui vont rester. Le Zoom va rester, faire ce qu'on fait va rester, je pense, et va être amené à se développer, mais aller faire ses courses avec Auchan en drive va rester également. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont…
Ça crée des habitudes et des réflexes. Hein.
Exactement.
Je vous en prie.
C'était plus de l'ordre du conseil que du management de transition, ce type de mission, me semble-t-il. Est-ce que vous pensez que justement, ça va rejoindre le management de transition ?
Oui. Vas-y, Alban, pardon.
Oui, voilà. Réponse courte et simple. Oui, il y aura des sujets spécifiques. Il y en a et il y en aura encore plus.
Parce que Je pense que nous, dans nos missions actuelles que nous avons, il y a certaines missions qui participent à digitaliser ou participent à. On peut mettre ça sur du conseil en strat, on peut mettre ça dans ce que ou du conseil en organisation. Moi, je viens du conseil en organisation, donc je vois bien de quoi on parle. Mais aujourd'hui, nos clients veulent des doueurs, veulent des gens qui fassent.
Ouais, c'est des opérationnels, comme disait Gilles tout à l'heure. Réaction peut-être de Bruno par rapport à ce sujet-là.
Clairement, effectivement, on ne peut pas échapper à la transformation digitale. Ça, on en parle depuis 3 ans, 3-4 ans. Il ne faut pas oublier que dans transformation digitale, il y a transformation. Donc, c'est avant tout, effectivement, le vrai mot, finalement, de ce sujet-là. Le télétravail, évidemment, on le vit tous les jours. Je pense que ça va devenir, pour certaines entreprises, notamment dans le monde du conseil, une norme. Je pense qu'on va rester en télétravail quasiment à mi-temps. On est en train de le mettre en place dès lundi prochain. Donc, autrement dit, je ne vois pas pourquoi nos clients n'iraient pas dans le même sens.
Et d'autant qu'on voit déjà une tendance en termes d'immobilier, hein, de mètres carrés. Il y en a beaucoup qui disent déjà, mais on va réduire le nombre de mètres carrés parce que beaucoup plus de personnes seront…
On l'a réduit à zéro, carrément, depuis 6 mois.
Radical.
Et ça marche super bien.
Ouais. Alors, ce qui va marcher aussi super bien, c'est que je vais faire appel à vous tous et à vous toutes qui nous regardez pour ce sondage dont on vous parlait, qui est à l'initiative de 400, de Bruno et ses équipes, un sondage en live qui va s'afficher. Voilà, le fameux questionnaire à choix multiples, le QCM. Je vous énonce la question et vous la voyez, hein, au regard de la situation actuelle, quels seront les principaux impacts pour notre profession dans les 12 prochains mois. On essaie de se projeter ensemble. 3 réponses possibles au maximum. Vous le voyez, il y a plusieurs items. Hein, la demande, les prix, le pilotage, beaucoup de sujets. Donc, on a besoin de votre retour et de votre appréciation, justement. Et puis, on fera la sortie des urnes, comme on dit, d'ici 19h30. Je vais, pendant que vous continuez à regarder ce sondage, vous poser une autre question, à moins qu'il y ait une main qui se lève. Et qui veuille poser une question, autrement je m'en fais le porte-parole ou je demande peut-être à Philippe Mascaras qui a posé une question intéressante sur l'intégration des collaborateurs. Philippe, on peut vous écouter? Si vous n'êtes pas trop
oui,
timide.
Vous m'entendez?
On vous entend très bien, oui.
Je n'ai pas mis la caméra pour garder le réseau, mais si vous m'entendez bien.
Bien, vous entendez.
Donc moi typiquement je suis un primo-accédant comme vous avez dit. Et ma question était surtout sur l'onboarding. Le télétravail, une fois que la mission ou que la relation client est instaurée, bon, c'est des choses qui, je pense, fonctionnent très bien et je l'ai vécu dans d'autres entreprises, donc aucun problème. En revanche, l'onboarding sur une mission qui plus est limitée dans le temps, a priori, comment voyez-vous les choses pour que ce soit effectué dans de bonnes conditions, surtout dans un contexte où pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, mais en tout cas quelques semaines, le télétravail des équipes et des clients sera largement favorisé.
Ça veut dire quoi, le onboarding?
L'entrée en mission, c'est-à-dire rencontrer les, voilà, l'intégration.
Je peux peut-être répondre, Philippe, à votre remarque, à votre question. Aujourd'hui, j'assistais à un webinaire hier, fait par Welcome to the Jungle, qui évoquait clairement ce sujet-là. L'onboarding, comment va-t-il se passer demain? A priori, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Ils le font tous les jours. Ils ont fait des dizaines de recrutements pendant ces dernières semaines. Et donc, aujourd'hui, c'est un aspect plutôt technique, même si, effectivement, il y a une grande part d'humain. Le vrai sujet, ce sera comment on s'insère dans une culture d'entreprise. Et ça, c'est valable pour l'émission, mais ça sera aussi valable pour un nouveau recrutement dans une entreprise, en CDI par exemple. Donc ce deuxième sujet, je pense qu'effectivement on va avoir beaucoup plus de mal effectivement à s'intégrer au sens comprendre et assimiler et s'imprégner de la culture de cette nouvelle entreprise.
Alban, vous voulez réagir aussi?
Oui, c'est un peu ce que j'ai dit et ce que d'autres ont dit aussi tout à l'heure. Il y a ce sujet des soft skills, à mettre des mots exacts sur toutes, mais sera un peu particulier, mais pas non plus totalement différent. Comme a dit Bruno, ça va se faire. Ça se fait aujourd'hui, il y a des recrutements, puisque en Alexander, il y a toute une partie recrutement. Ils font en ça veut pas dire recrutement en ce moment. Donc, il y a des gens qui sont intégrés en ce moment, pendant cette période. Donc, ça se fait. Après, oui, il y a des petites différences. Et c'est là que le manager de transition, qui doit avoir une grande adaptabilité rapide, doit encore plus être adaptable et rapide pour tout de suite essayer de comprendre comment cette entreprise qui ne voit que par un écran interposé fonctionne.
Exact. Patrick, Gilles.
Tout dépend des missions. Dans les missions de direction générale, j'aurais tendance à dire que c'est l'entreprise qui doit s'adapter à la culture du manager et pas le contraire. Alors, j'exagère un peu, évidemment, je grossis le trait, mais je suis d'accord avec Alban, il n'y aura pas tant de changements que ça. L'intégration en mission, c'est rarement là que ça ne se passe pas bien. D'expérience, on a tous des contre-exemples, mais il n'y aura pas de gros changements.
On a démarré des missions au mois d'avril sur des queues d'affaires d'appel de nos clients du mois de mars ou du début du mois de mars. Donc, on a des gens qui ont démarré et ils ont démarré en mode un peu dégradé, donc de chez eux et via ce qu'on fait là. Donc, ça fonctionne. Maintenant, on sait que ce n'est pas pérenne. Je pense que si on savait que cette situation durait ad vitam aeternam, je pense que ce serait vraiment compliqué. Là, on sait que c'est une situation qui est dégradée, qui va durer quelques semaines, on l'espère, ou quelques mois.
Oui, on sera en mode hybride un peu, hein, c'est ça.
Exactement. Donc, je pense que ça fluidifie quand même. Mais bon, je reviens sur l'adaptabilité qui est le fer de lance, qui est la vraie qualité du manager de transition. Et là, c'est clair qu'elle est mise à l'épreuve, cette qualité, qu'elle est très demandée.
J'ai un avis à donner, si vous pouviez me donner la parole.
Oui,
Thierry Boyer, je suis manager de transition depuis 15 ans. Et ça rejoint le point qu'a soulevé Christelle. En fin de compte, parmi tous vos clients, il y a deux groupes très clairs. Il y a toutes les sociétés globales qui, depuis longtemps, sont équipées, ont des systèmes d'information, ont la digitalisation qui est complètement banale. La plupart ont SAP et elles sont équipées, elles sont très bien outillées au niveau informatique pour pouvoir faire du télétravail. Et puis, à l'autre bout du spectre, vous avez beaucoup de TI françaises à culture industrielle qui étaient très liées au site et qui n'étaient pas préparées à ça. Et n'oubliez pas que, pour répondre à la question de Christelle, le besoin est identifié, qu'un groupe comme Microsoft a eu sa croissance boostée par ces questions. Le cloud et le système informatique global et la banalisation de la digitalisation. Et très probablement, ils vont adresser maintenant la phase en dessous des ETI pour continuer leur croissance. Et probablement, on ne sera pas appelé sur ces sujets. Ce sera plutôt des sujets décision direction générale, budget, DSI.
Et comment faire pour être appelé, justement? Comment faire pour trouver le trou de souris?
Vous êtes face au marketing de Microsoft. Ouais. Et c'est une boîte extrêmement puissante sur ce plan. Leurs interlocuteurs sont identifiés, c'est les directions générales, parce que c'est d'abord une question de moyens, une question de sensibilité aux enjeux. Alors, c'est vrai que pour les sociétés pour lesquelles ça n'était pas la priorité de taille moyenne, elles ont réalisé que ce n'était pas si évident. Avec des points importants, tout le monde n'est pas équipé de portable. Les serveurs de la société ne sont peut-être pas assez robustes pour assurer une distribution fluide et permettre aux gens de travailler. Et puis, il y a un autre point qui est important pour vous. Quand vous rentrez dans les entreprises, vous voyez d'un coup d'œil, est-ce que les placards sont remplis de dossiers et de papiers ou pas? S'ils ne sont pas remplis de papiers, c'est que la boîte a réussi sa digitalisation.
Intéressant le point de vue de Thierry. Là.
C'est pas le biais pour lequel on sera sollicité. Là, pour une filière comme la mienne, il y a les sociétés qui n'ont pas terminé leur compte annuel. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a celles qui sont dans des groupes beaucoup plus globaux, qui maîtrisent leur trésorerie, où c'est business as usual, où on va rentrer dans les phases de préparation des budgets 21, sans savoir ce qu'aura été l'année 20. Là, vraiment, aujourd'hui, il y a une césure entre les groupes qui sont organisés globalement, qui sont à l'aise là-dedans, qui sont peut-être mieux armés pour résister à la crise sans prendre en compte les questions de filière. On avait évoqué tout à l'heure l'agroalimentaire. Bon, vous savez que le spectacle, etc., est sinistré. Les transports aériens sont sinistrés.
Et de l'autre, on a...
Est-ce qu'il faut, et est-ce puis, qu'il faut... vous avez beaucoup de TI qui, vous voyez, pour qui vous sont répondre. Conscientes et qui vont avoir besoin de chefs de projet, là. Qui, alors, parce que la partie chef de projet interne ne sera pas assurée par Microsoft.
Alors, merci de votre témoignage, Thierry.
C'est terminé.
Non, mais c'était très intéressant et très éclairant, justement. Patrick voulait réagir.
Il faut, dans notre métier, c'est de la volatilité. C'est triste à dire, mais à la hausse ou à la baisse. On travaille dans les entreprises d'hypercroissance, on travaille dans le e-commerce, ils ont besoin de nous, ils nous appellent le mercredi, on se mobilise pour mettre quelqu'un le lundi.
Et puis, l'agilité.
Exactement, c'est de la volatilité. Le pire cauchemar, c'est une discussion que j'ai eue avec notre ancien président du MEDEF, M. Gattaz, où je lui explique ce qu'est le management de transition et il dit « Mais je ne comprends pas, ça sert à quoi votre truc ?» Alors je lui dis « Mais vous êtes M. Gattaz, je vous respecte, bon, très bien, mais vous êtes mon pire cauchemar. Votre société, elle fait radiale, elle fait 200 millions, elle fait 5% de croissance par an, évidemment, c'était avant le Covid. » Et vous ne changez pas d'actionnaire, vous avez une bonne trésorerie, vous avez fait un succession plan, vous êtes bien organisé, vous ne construisez pas de ligne de production.
Donc, c'est pas un sujet.
Vous êtes mon pire cauchemar. Je ne travaillerai jamais chez vous. Bon, peut-être mes confrères vont se marrer parce qu'ils ont peut-être des missions chez Radial du coup. Donc tout ça pour dire, il faut que des changements. Il faut des changements à la hausse ou à la baisse. Aujourd'hui, on a un changement énorme. Il y a des boîtes qui vont crapahuter, il y a des boîtes qui vont caracoler, qui vont tomber, elles seront rachetées. Il y a des actionnaires qui vont perdre leur valeur d'action. Ces boîtes, elles seront reprises. Il va falloir intégrer les systèmes d'information, il va falloir intégrer les flux logistiques, intégrer. Et donc, tout ça, ça donne du boulot pour plein de monde et plein de management.
Bruno, Gilles, Alban, qui veut réagir à ce qu'a dit Thierry ?
Non, j'ai pas trop de commentaires. C'est pas ce qu'on vit au jour le jour. Je suis beaucoup plus en ligne avec ce que dit Patrick. C'est de la volatilité. On arrive dans une boîte qui est très organisée, qu'elle soit grosse ou petite. Je connais des ETI qui sont incroyablement bien organisées, qui sont bien plus organisées que des grands groupes. On est dans un grand groupe actuellement. Ça a été une merde monumentale de passer sur le télétravail, etc. Et il y en a d'autres qui sont très bien organisées. C'est beaucoup plus transversal que ça. Et puis, on a des sociétés. Moi, j'ai quand même vu un dirigeant il n'y a pas très longtemps qui n'avait pas d'ordinateur. Je n'avais juste pas d'ordinateur. Ça existe. Hein. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, qui sont extrêmement digitaux. Des boîtes qui sont à Singapour avec des usines un peu partout, etc. Il y a des entreprises qui ont des usines.
Oui, on a une large palette.
Exactement. Et notre savoir-faire, nous, c'est de savoir nous adapter à ça et à chaque fois de comprendre quel est l'ADN, quelle est la problématique, quel est l'enjeu, quel que soit le secteur. Et d'avoir de la méthodologie pour avancer. Donc là où je suis d'accord avec Patrick et Alban, c'est avoir de l'empathie ou en tout cas de l'ouverture pour comprendre où on met les pieds.
Comprendre les besoins.
Après, le télétravail, oui, bien sûr, ça enclenche des choses. Enfin, il y a 30 ans, l'ordinateur a changé des choses. Et puis Internet a changé des choses. Et puis après, il y aura encore autre chose. C'est l'adaptabilité. Et il y a des permanences.
Alors, j'ai une autre question, c'est Olivier Naudin qui nous la pose. Olivier, vous voulez la poser en direct ou je suis votre porte-parole ? Alors, visiblement, Olivier me passe la main et il pose cette question-là. Réduction des tarifs des cabinets et des managers, sentez-vous une tendance ? Point d'interrogation.
Je vais en répondre.
Oui, Alban.
Pour le moment, non. Pas plus, pas moins, enfin oui, pas plus, pas moins qu'hier. Je pense que le sujet, il n'est pas là. Comme a dit Gilles tout à l'heure, et je pense qu'on est tous d'accord, Patrick ou Bruno, et tous les autres EMT connectés, tout dépend de la valeur ajoutée qu'on va apporter. Le prix n'est pas un sujet. Alors, évidemment, il faut que ce soit raisonnable, mais c'est comme pour tout. Quand vous achetez quoi que ce soit professionnel ou personnel, vous voulez avoir la bonne qualité pour le bon prix. Si vous apportez une forte valeur ajoutée, le payback de votre mission par rapport au prix, votre prix, ce n'est pas un sujet. Évidemment, si la valeur ajoutée elle est moyenne, si la mission, ce n'est pas une vraie mission de transition, mais c'est un peu de confort, etc., et puis c'est assez middle, et puis on ne sait pas trop s'il y a vraiment besoin, bah là, mais ce qui est normal. Là, c'est un plus. Donc, c'est un coût. Et ce n'est pas une valeur ajoutée. Donc, tout dépend de vers où on va intervenir. Après, ça reste toujours un sujet. Il faut être au bon budget, avec la bonne valeur ajoutée. Tout à l'heure, je voulais faire une remarque et puis ça enchaînait sur autre chose, mais il y avait dans les commentaires, la conversation, le chat, une remarque sur l'intégration des managers en disant c'est toujours au manager. Non, de bien s'intégrer, l'adaptabilité. Enfin, oui et non, on ne peut pas faire à leur place. C'est eux qui font la mission. Évidemment, nous, le cabinet, on doit être présent, on doit préparer l'intégration, on doit préparer le démarrage avec le manager et avec le client. Hein, la communication sur son arrivée, les premiers jours, etc. Enfin, tous les cabinets le font. On ne le dit pas parce que pour nous, c'est évident, mais oui, on doit le faire et on le fait. Après, au final du final, on ne peut pas changer le manager au quotidien dans sa mission. Donc, si lui, il ne sait pas s'adapter ou s'il n'est pas bon, le cabinet, quel qu'il soit, il ne peut pas faire à la place.
Bruno, vous voulez réagir
par rapport à... Je veux bien effectivement prendre le relais d'Alban. Le prix, dans tous les cas, dans ce métier-là, je trouve que c'est un non-sujet. Pourquoi ? Parce que la négociation du prix avec le client se fait souvent après avoir choisi le manager. C'est ce que je constate quand même 70% du temps. Donc, autrement dit, on est plutôt en position de force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'évolution du prix moyen de notre profession qui aujourd'hui est à 1 250 € jour facturé par les EMT aux clients finaux. Ce prix-là n'a pas bougé depuis 60 trimestres. Donc, c'est assez incroyable. On a une volatilité très très faible qui va de plus ou moins 2% ou même plus ou moins 1%. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. J'ai rarement vu ça. Un prix qui est aussi constant et consistant. Quand on connaît le sujet de la volatilité, par exemple, appliquée à d'autres sujets comme le marché boursier, par exemple, moins il y a de volatilité, plus le décalage va être fort. Ça, c'est une grande règle, y compris, par exemple, si vous êtes au même poids pendant 10 ans, si ça décale, ça va décaler beaucoup. Et ça va décaler à la hausse ou à la baisse. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans notre métier, ça bougerait. Et si ça venait à bouger, ça décalerait forcément fort à la baisse. Et d'ailleurs, ça rejoint des marchés comme l'Angleterre ou l'Allemagne qui, quand ils nous sollicitent, on s'aperçoit que nos prix sont vraiment décorrélés de leur budget qui sont souvent 15% moins chers. Donc, c'est pas une prédiction. Je ne vois pas pourquoi les prix bougeraient à la hausse. Ils vont probablement encore se stabiliser, mais s'ils venaient à décaler, notamment par la disruption de certaines plateformes, ça serait fortement à la baisse. Voilà, c'est ma conviction, même si, bien évidemment, nous faisons tout pour que ces prix ne bougent pas.
Alors, on a une question de Christophe Bévilacqua. Pour un primo-accédant, peut-il accéder à une première mission en cette période de sortie de crise ou de crise tout court, où les clients vont plutôt rechercher des anciens pour sécuriser alors, dans l'alternative là,
qui... Il y a autant de types de clients qu'il y a de clients. Il n'y a pas de réponse. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui trouvent des CDD et des CDI à 65 ans. Il y a des primo-accédants.
Mais compte tenu de la crise, hein, c'était le sens de la question, est-ce qu'on va plus se tourner vers...
Quand on est manager, il ne faut pas avoir une approche macro. Quand on est manager en transition, il faut avoir une approche micro. Je cherche ma première mission. Des missions, il y en a 3000, 4000 par an. À cause de la crise, il n'y en a peut-être que 2500, il y en a peut-être 5000, peu importe. Il faut que j'en trouve une. Donc, je la trouve. Et voilà, c'est tout. Il ne faut pas...
Il faut faire attention. Bruno, par rapport à ça ?
Pardon ?
Qui veut ajouter quelque chose par rapport à ce sujet-là ?
Pas moins qu'hier. Moi depuis 15 ans, 16 ans que je fais ce métier, finalement, une mission sur deux, peut-être, et par un primo-accédant ou quasi-primo-accédant, quelqu'un qui a peut-être fait soit zéro mission, soit une mission. Donc, bon, on ne peut pas dire que ce soit un manager de transition professionnel avec des guillemets, parce que j'aime pas ce mot, mais ça ne fait pas 10 ans qu'il est manager de transition ou qu'elle, hein. Parce qu'il y a finalement un pourcentage, beaucoup de femmes dans ce métier de management de transition. Donc, pas plus, pas moins qu'hier. Oui, il y a des clients, mais parce que ce n'est pas les clients, c'est surtout les missions qui vont demander. Quand vous êtes en phase de restructuration lourde, vous improvisez pas de DG de restructuration. Vous le mettez ou vous ne le mettez pas.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Quand c'est pour faire DRH d'une BU en reprise managériale, bon, un prénom...
Les gens ne sont pas les mêmes.
Vous êtes légitime.
Ouais. Patrick, réaction par rapport à ça ?
Non, mais quand on démarre une mission, je pense il y avait une notion de premier cercle, deuxième cercle, qui inquiétait un peu les primo-accédants. Moi, j'ai démarré dans ce...
Si je ne fais pas partie du cercle en question, quoi.
Ah, exactement, parce que les primo-accédants, ils se disaient « Ah bah oui, mais moi, je ne suis pas dans le premier cercle, donc on ne m'appellera jamais. » Bon, alors, ce n'est pas tout à fait ça. Hein. L'explication, elle est plus une explication hyper pragmatique, quoi. C'est que nous, on a un client qui nous impose, quelque part, un cahier des charges, hein, en disant « Je cherche... » telle fonction, telle spécificité, etc. Et il y a quelqu'un qui n'a pas coupé le micro, je crois encore. Et à chaque fois, il faut que ça tombe sur moi, je crois. Hein.
Et... C'est cette capacité à rebondir, Patrick. Donc,
voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je ne sais plus ce que je disais. C'est pas grave.
Oui, parfois, on vous demande, c'est la mission en question, donc, vous disiez.
Ouais, et donc on répond, à un cahier des charges. Il est évident qu'on commence par regarder les managers de transition qui viennent de terminer une mission et avec lesquels ça s'est bien passé. Donc c'est normal, on les connaît, on vient de passer 18 mois avec eux en train de les appeler le week-end, la semaine, pendant les vacances pour savoir si la mission se passait bien. Donc on a un fit avec eux, donc c'est normal. Maintenant, il y a certains clients qui nous donnent des cahiers des charges où… vous savez, le lundi, on travaille sur un directeur des achats dans le plastique. Le mardi, c'est un DRH pour aller travailler dans les logiciels. Et le mercredi, enfin, c'est tout secteur. Oui,
et un éventail très, très large.
L'éventail est très large. Mais on n'a pas de clients, c'est très rare, qui nous disent « Ah, je veux un vrai manager de transition qui ait au moins fait déjà 3 missions de management de transition. »
C'est extrêmement… La cohérence, il faut que ça matche avec le besoin et la mission. J'ai une question là. Vous êtes 4. Est-ce qu'il y a une autre EMT qui est présente dans la salle virtuelle et qui souhaiterait intervenir? Là, je lance un appel très large.
Dominique Deveuve pour le groupe Manager en Mission.
Bonsoir Dominique, on vous écoute. Bonsoir.
Alors bon, je sais qu'il y avait beaucoup de messages sur la conversation, donc je renouvelle ma question. À savoir, bon, nous, on se pose la question quand même de l'évolution du métier de management de transition, en tout cas tel qu'il va être adressé dans le cadre d'une mission pour une entreprise dans les prochaines semaines. À savoir, les plans de reprise d'activité vont certainement nous obliger à avoir plutôt une équipe pluridisciplinaire qui va intervenir tout simplement par phase au niveau des entreprises. Donc, je voulais partager ça également avec vos intervenants de la table ronde pour voir si on avait une vision commune là-dessus.
Vous partagez ce que dit Dominique. Merci Dominique. Très, très rapidement, avant les résultats du sondage, Bruno peut-être.
Bon, la notion de task force, c'est ce que vous développez, Dominique. C'est un sujet sur lequel on se penche depuis peu, je ne vous cache pas.
D'accord.
C'est rare de nous solliciter pour deux managers en même temps. Enfin, je l'ai rarement vu. Je pense qu'Alban et Patrick auront peut-être plus de légitimité aussi sur ce sujet. Clairement, ce sont des offres qu'on a bâties pendant ces 2 mois. Voilà, donc je vous réponds positivement sur ce point.
Pour moi, le besoin fait force. S'il y a besoin de 3 ou 4 managers dans une mission parce que c'est une mission particulière, bah, on y répondra. La majorité des missions de transition, quand même, sont des missions unipersonnelles. Il y a besoin d'une personne clé pour un sujet très spécifique, de transformation. Et ça, c'est quand même, je pense, plus de 95% des missions sur la place. Après, oui, il y a des besoins de temps en temps où il faut plusieurs personnes. On a des missions comme ça. Alors, ça se construit un peu différemment. Parce qu'il faut mettre aussi les bons managers qui vont bien fitter ensemble et qui vont être complémentaires. Parce que finalement, c'est au global que le client regarde. Je ne vois pas pourquoi demain, ce sera la majorité. Demain, on ne va pas se retrouver avec la majorité des entreprises en France. Ou alors, ça devient inquiétant. Qui ont la moitié de leur codir qui est tombée. Parce que là, ça va être pour l'économie française.
Ouais. Patrick ?
L'implication en mode dispositif, je pense que c'est de ça dont on parle. Les clients nous appellent pour avoir des fonctions, une personne en particulier. Il y a une question, j'ai vu sur le fil, je me permets Frédéric, j'ai vu sur le fil pas mal de questions.
Après, je passerai la main au Agile après, hein. Je vous en prie. Ouais.
Pas mal de questions ou d'échanges sur le mode part-time, le mode en temps partiel.
Ouais.
Est-ce que le management de transition, bon, toutes les missions qui sont les nôtres, hein, je parle pour nos confrères également, sont à plein temps, hein, le manager. quand un client appelle, c'est parce qu'il y a deux caractéristiques. C'est urgent et l'enjeu est important, hein, ce qui répond à la question sur le prix également. J'avais une cliente qui me disait, quel est le prix d'une bouteille d'eau au milieu du désert ? Hein, et nous, c'est un peu ça. Alors, c'est sûr que le client, la première fois, il est prêt à payer 1 000 euros la bouteille d'eau. Hein, la deuxième fois, soit il va prendre deux fois plus d'eau, si on abuse, hein, soit il ne nous appellera plus. Hein. Alors, nous, on essaie d'avoir des relations quand même durables avec nos clients, hein, pour répondre. Donc, tout ça pour dire ce que disait Bruno, c'est-à-dire le prix n'est pas trop le… Il n'y aura pas trop d'impact sur le prix. En revanche, sur le temps partagé, ce n'est pas le même marché. Le temps partagé s'adresse à des sociétés de taille plus petite, sur des missions qui sont beaucoup plus longues. Nous, la durée moyenne des missions, c'est 7, 8 mois, 9 mois en fonction des cabinets, et qui s'est plutôt rallongée récemment d'ailleurs. Les missions en temps partagé, ce sont plutôt des missions de l'ordre de 18 mois, 2 ans, 3 ans, qui ont lieu dans des startups, qui ont lieu dans des sociétés, des petites PME. Quand un client appelle Delville, comme appellent mes confrères, c'est parce qu'ils veulent quelqu'un lundi, qui soit à 200% du temps sur la mission. Alors, s'il peut arriver à 7h et être là à 22h, il faut vraiment, voilà, 5 jours, et encore, si le samedi, il peut y être, ce serait bien aussi. Hein. Donc, c'est très urgent, il faut mettre en place rapidement. Donc, et pour des gens qui souhaiteraient, des managers de transition qui souhaiteraient aller vers le temps partagé, ce n'est pas le même marché. C'est-à-dire, on peut faire une mission en temps partagé et compléter par une autre mission en temps partagé, mais à partir du moment où on a une mission en temps partagé, on ne peut plus faire de mission de transition en tant que telle que nous, entreprise de management de transition, nous l'imaginons, parce que nous, c'est que du partage. Bah, excusez-moi de monopoliser.
Non, mais c'était intéressant d'avoir cet éclairage.
J'ai eu pas mal de réactions. Ouais.
Alors, moi, je vous propose de regarder les résultats du sondage et puis je demanderai à Gilles de réagir en premier avec des mots de conclusion. Alors, voilà, on regarde la situation actuelle. Quels seront les principaux impacts pour notre profession dans les 12 prochains mois? Une augmentation de la demande et des nouveaux clients, là, ça ressort en majorité. Ensuite, si je lis bien, on a le leadership réaffirmé comme facteur de résilience. Et puis ensuite, on a un besoin, on en parlait, hein, accru de pilotage. Alors, je vais vous demander, messieurs, tous les quatre, on va commencer avec Gilles, de réagir à ce sondage très, très rapidement. Et en une minute aussi, s'il y avait un point à retenir pour clore notre webinaire, qu'est-ce que ce serait ? Gilles Marc pour Actis Partners.
Bah, on voit pas sortir quand même de tendances extrêmement lourdes, mais donc c'est quand même intéressant. Une augmentation de la demande de nouveaux clients, oui, il ne faudrait pas que ce soit du wishful thinking, moi j'adorerais, on adorerait tous, mais bon. Le leadership préaffirmé comme facteur de résilience, je bois du petit lait, de même que le besoin accru d'un pilotage serré des missions, là aussi. Ouais. Mon simple commentaire, c'est que les managers sont toujours prêts à faire des missions de transformation, avec du leadership, du pilotage. Le client, lui, ne l'est pas toujours. Il peut y avoir une dichotomie entre ce qu'on veut faire. Enfin, on veut tous rouler dans des Jaguars, excusez-moi. Et les clients veulent parfois rouler en Dacia. Donc, il faut faire la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on aimerait.
OK. Alban,
J'ai répondu au sondage. J'étais à peu près en phase. J'avais mis les deux premiers. Où j'ai inversé, par contre, c'est sur le besoin de pilotage.
Très couramment.
Moi, j'ai mis plutôt une grande proximité entre les cabinets de management de transition et les managers. Parce que je pense que dans une période un peu troublée, quand même, comme celle-là, hein, même s'il y a des opportunités, etc., avec des démarrages, même si ça se fera un peu particulier, avec des missions un peu particulières et des clients un peu sur le fil du rasoir, va falloir quand même beaucoup être présent et beaucoup accompagner les managers de transition. En tout cas, nous, c'est notre vision des choses.
Parfait. Voilà. Impeccable. Merci beaucoup, Alban. Je passe la parole à Patrick.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alban. Je pense que c'est plutôt très positif, hein, que tout le monde se dise qu'il y aura une augmentation de nouveaux clients et du nombre de missions. Je pense que c'est très positif pour la profession. Espérons que ça ne vienne pas trop tard, déjà, parce que si les clients se réveillent dans un an, j'espère que les, je ne sais pas combien, 100 entreprises de management de transition en France seront toujours présentes, hein, quand même. D'autre part, la mission de management de transition, oui, c'est utilisé quand l'enjeu est important, mais c'est quand même de la facturation, de l'ordre en moyenne, je parle sous le contrôle de mes confrères, l'ordre de 25 000 euros par mois ou 30 000 euros par mois hors taxes, hors frais. Donc, bon, c'est un coût de 200 000 euros pour avoir une personne pendant moins d'une année, hein, en moyenne. Donc, il faut quand même avoir les reins solides ou avoir de bonnes raisons pour se payer une mission de management de transition. Et donc, j'ose espérer que la crise actuelle n'aura pas un impact si significatif sur les marges des entreprises qu'elles n'auront même plus les moyens d'appeler des boîtes comme les nôtres.
Ouais.
Donc,
soyons positifs, mais c'est vrai que la question mérite d'être posée. On termine avec vous, Bruno.
Et je reprends l'expression de Gilles, j'ai été à bonne école, je bois du petit lait. On a créé ce sondage effectivement en étant le plus objectif possible, hein, donc les questions peuvent être orientées, mais ce que je retiens, c'est qu'effectivement le pilotage, la qualité, le suivi des missions, ça c'est un vrai sujet et on y tient et ça on le met en œuvre au quotidien. Le leadership, c'est le marqueur d'une majeure transition. Il y en avait un seul à retenir. Alors, effectivement, l'adaptabilité, c'est ce que disait Patrick, mais leadership, c'est effectivement cette capacité à emmener des équipes. Donc, ça, effectivement, je ne suis pas surpris. Un point qui me gêne plus, mais que je connaissais, c'est toujours ce petit désamour entre les EMT et les managers. Et ça, je le vis tous les jours. C'est pour ça qu'on a créé 400. C'est pour réconcilier les deux parties. Donc, il y a encore du chemin à faire. Voilà.
Je voudrais vous remercier tous les quatre, Patrick Abadie, Alban Azopardi, Gilles Marc et Bruno Calveri, d'avoir été avec nous ce soir. C'était très intéressant, très riche, ça a permis d'avoir des regards croisés, des mises en perspective. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes de vous être rejoints à ce webinaire. Vous étiez très nombreux, on a essayé de répondre au maximum de questions. Évidemment, il y aura d'autres événements. Merci à 400 partners d'être à l'origine de cette rencontre. Merci à Laurent, Fanny dans les équipes de Bruno Calabri et merci encore à vous tous et à très bientôt pour de nouveaux échanges. Bonne soirée.